Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Lutte contre le Covid-19 en RDC. Félix Tshisekedi a visité ce jeudi à Kinshasa les structures médicales spécialisées contre cette pandémie. À cette occasion, le chef de l'État a inauguré un nouveau bâtiment du centre médical de Kinshasa, CMK, dédié à la prise en charge médicale des personnes atteintes du Covid-19. 27 lits sont déjà opérationnels pour les cas graves sur 100 lits disponibles. À ce jour, la RDC compte 863 cas confirmés de coronavirus selon les bulletins du secrétariat multisectoriel de la riposte contre la pandémie de Covid-19 publié mercredi 6 mai. Comment analyser cette visite du chef de l'État et quelle évaluation faire de l'évolution du Covid-19 en RDC près de 2 mois après son apparition? C'est l'objet du débat de ce soir. Et dans cette émission, nous recevons Michel Mouvidi, il est médecin expert en santé publique. Il est aussi membre de la riposte contre le Covid-19 en RDC. Bonsoir, docteur Michel Mouvoudi.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Docteur Vincent Okoyo, député national élu du territoire d'Opala, province de la Tshopo. Il est ancien médecin chef des zones de santé d'Opala. Bonsoir, docteur Vincent Okoyo.
Bonsoir, Guy Maté.
Et Nestor Omandiangou, ministre provincial de la santé de la province du Congo central. Et bonsoir, monsieur Nestor Omandiangou.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous l'avons dit dans les sommaires, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est allé ce jeudi s'enquérir des conditions de prise en charge effective des malades atteints des coronavirus et des conditions de travail du personnel soignant. Il a ainsi visité la clinique Ngaliema, le centre médical de Kinshasa, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise et celui du cinquantenaire. Ici, Félix Tshisekedi a échangé directement avec les patients qui dénonçaient les conditions de prise en charge en présence des gestionnaires de cet hôpital. Un reportage de Billy Ivan Lutumba.
Pour manger, ça va. Vous ne mangez qu'une fois par jour. Mais lui m'a dit trois fois.
Non, c'est pas trois fois.
Ce vis-à-vis avec le président de la République se déroule à l'hôpital du cinquantenaire. Les malades sortis au balcon de leur salle à l'étage transmettent leurs doléances sur le manque d'une prise en charge adéquate au président de la République, doléances auxquelles Félix Tshisekedi répond en ces termes.
En plus de l'INRV, le CMK et HJ Hospital vont aussi ouvrir des centres de traitement. Donc on attend juste que les tests soient homologués et à ce moment, on pourra avoir plus de centres. Donc prenez un peu votre mal en patience, ça prendra un peu plus de temps, mais le but c'est de vous guérir complètement et de vous ramener sans danger de contagion dans vos foyers.
Après cette assurance aux patients mécontents, le personnel soignant du cinquantenaire a montré comment il est exposé à des risques.
Nous sommes là pour la prise en charge des malades Covid.
Qu'est-ce qui ne va pas ici?
Nous avons des masques, mais non adaptés. Masques sans filtre.
You are having this mask, no?
C'est pas assez. Il y en a des masques.
Non, vous devez changer.
Peu avant, le président de la République a inauguré un bâtiment de 100 lits pour des cas graves de Covid-19 à CMK. Il a également assisté à la remise des certificats de guérison à 2 malades de la clinique Ngaliema. 16 autres de l'hôpital du cinquantenaire seront aussi déchargés ce jeudi. Signalons par ailleurs que lors de son passage à l'INRB, un lot de produits préventifs Covid organiques, dont du Madagascar, lui a été présenté.
Ils ont besoin d'un train.
Merci à vous, Billy Ivan Lutumba. Docteur Michel Mouvoudi, vous êtes médecin, expert en santé publique. Vous êtes aussi membre de la riposte contre le Covid-19 en RDC. Que vous inspire cette visite du chef de l'État de ce jeudi dans ces différents hôpitaux?
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. Non, mais je pense que l'initiative est très saluée de voir justement que les décideurs peuvent descendre pour aller visiter les hôpitaux afin de s'enquérir des conditions dans lesquelles la prise en charge est organisée. Mais aussi, je pense que c'est aussi un très grand réconfort psycho-moral, si vous voulez bien. Vous savez que cette maladie a cette variante psychologique au vu de tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit ailleurs. Et pour moi, je crois que c'est très important que de temps en temps, que ce niveau de hiérarchie descende et touche du doigt les vrais challenges, les vraies réalités auxquels sont confrontés non seulement les prestataires des services, mais aussi les malades. Et donc ça, c'est vraiment un élément important.
Voilà, il a procédé.
Les discussions étaient dans le sens de comprendre quels sont les problèmes qu'on rencontre. L'autorité était tout à fait attentive à écouter les malades, mais aussi les prestataires. Et donc c'est vraiment une initiative très encouragée. Et je pense que l'idée, c'est d'aller dans le sens de la résolution des problèmes.
Ok, il a procédé au CMK à l'inauguration d'un nouveau bâtiment dédié à la prise en charge médicale des personnes atteintes du Covid-19, ce qui est une bonne chose, dans le sens, n'est-ce pas, comme vous l'avez dit, d'aller vers, n'est-ce pas, les solutions par rapport à la lutte contre cette pandémie. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cela arrive en retard, hein? Vous ne pensez pas qu'une telle action aurait dû être entreprise avant l'arrivée de la maladie en RDC, parce qu'en fait c'est cela aussi anticipé, n'est-ce pas?
Oui, non, ce que M. Guy, si vous regardez sur l'ensemble de la planète, sur l'ensemble de pays qui sont touchés, vous allez vous rendre compte en fait que cette situation de la pandémie Covid-19 a pris un peu tous les pays au dépourvu. Donc personne n'y était préparé, personne ne s'y attendait. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays, même les plus organisés, qui ont suffisamment de moyens. En fait, la situation est venue de manière très brutale. Et donc, chaque pays est en train d'apprendre et de s'adapter en fonction de ce contexte. Je crois que nous sommes encore en pleine épidémie. Et justement, on l'avait mentionné lors des émissions passées que le défi de la prise en charge était réel et qu'on avait justement besoin de plus d'espace. Et comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, on est à 863 cas. Donc, ça montre justement qu'on a beaucoup de malades et pour lesquels on aura besoin d'espace pour leur prise en charge clinique et autres. Donc, pour moi, c'est une réponse qui arrive, quitte à ce que justement, on anticipe sur les autres cas qui vont venir après. Mais c'est déjà un très bon départ et une initiative à encourager.
Vous venez de les rappeler, nous sommes à 800 cas confirmés, c'est 7 mai 2020. Et dans ces centres qui viennent d'être inaugurés par le chef de l'État, on dit qu'il y a 27 lits opérationnels pour des cas graves. Pourquoi seulement 27 lits? Qu'est-ce qui manque pour que les 73 autres soient aussi opérationnels?
Non, je pense que c'est un module, hein. C'est que, en fait, nous avons une province qui est affectée. Nous avons plusieurs formations sanitaires qui peuvent prendre en charge des malades. Donc l'idée, c'est justement aller sur des modules différenciés et les associer. Donc si on ouvre aujourd'hui un premier module qui peut accueillir 27 personnes, ben cela ne veut pas dire que demain on ne peut pas travailler encore sur d'autres pôles. Donc l'idée ici, c'est d'aller dans une approche associative et de voir avec le maximum qu'on peut, comment on peut créer de la disponibilité des places pour offrir des soins de santé de qualité aux personnes qui sont affectées au Covid-19. Donc, encore une fois de plus, c'est un processus qui vient de commencer. Et selon le plan projeté, en fait, nous voulons justement être rassurés qu'on peut prendre en charge suffisamment et avoir de l'espace pour les cas graves. Mais n'oubliez pas ce que j'ai toujours mentionné à travers les différentes émissions, c'est qu'en fait, notre souci, c'est vraiment faire en sorte que les malades n'arrivent pas au stade de gravité. Et c'est comme ça que, encore une fois de plus, il faut rappeler qu'il faut travailler en amont, renforcer les mesures préventives, notamment les mesures barrières, pour que justement, l'on n'ait pas des cas qui arrivent à un stade dépassé pour justement lesquels, malheureusement, la prise en charge est très coûteuse et demande des moyens très, 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 très colossaux. Donc, il faut toujours ne pas oublier l'idée de travailler en amont pour justement éviter d'être dépassé par les situations gravissimes qui sont exacerbées par plusieurs facteurs.
Merci docteur Michel Mouvoudi. Docteur Vincent Okoyo, député national élu du territoire d'Opala, province de la Tchopo, vous êtes ancien médecin chef des zones de santé d'Opala. Et comment vous percevez la ronde que le chef de l'État a effectuée aujourd'hui dans les différents hôpitaux?
Bon, je la reçois cette ronde-là. Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous nos auditeurs, auditrices de Radio Capi. Je perçois cette ronde de façon positive, mais Guimette, permettez-moi que je puisse commencer par là où Dr Michel a terminé. Nous devons travailler en amont, nous devrions travailler en amont pour éviter que dans notre pays, l'on puisse faire face à des cas gravissimes qui demandent plus de moyens, plus de logistique, ainsi de suite. Guimette, je crois que depuis un certain temps, nous échangeons sur la question. Et moi, je suis tout à fait un peu étonné de voir que aujourd'hui le chef de l'État fait la ronde. C'est un fait positif en fait. c'est positif. Et nous, nous ne devrions pas attendre des cas de réclamation des populations ou des gens, des malades diagnostiqués positifs dans les hôpitaux qui disent qu'ils n'ont pas de médicaments, qui disent que la prise en charge n'est pas bien assurée. Vous avez vu des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux pour le cas de l'hôpital du Cinquantenaire. Et pour que le chef de l'État aille résoudre ce problème, alors qu'avant d'atteindre le chef de l'État, il y a le gouvernement, il y a l'équipe de riposte qui devrait travailler et assurer les conditions idéales, si pas idéales, en tout cas les bonnes conditions de prise en charge à tous les cas diagnostiqués positifs et aux malades. Donc, à mon avis, le chef de l'État, je crois que quelque chose a bougé, il a eu l'information et en tant que premier citoyen de la République, il devait se rendre, ça devait être programmé dans son agenda, de se rendre au chevet auprès des structures médicales, réconforter le personnel soignant, qui a une batterie de réclamations aussi que vous savez, réconforter les malades et leur montrer la proximité de la nation par ceux qui sont touchés par l'épidémie. Donc c'est une visite qui rentre dans les cadres de la vie nationale et que le chef de l'État qui représente la nation peut rendre aux malades et au personnel soignant. C'est tout à fait positif à mon avis.
Docteur Vincent, oui, voilà, vous estimez que cette approche utilisée par le chef d'État, c'est une approche positive. Il a eu à échanger avec les personnels soignants, les personnes atteintes de la maladie. Il a eu des réponses, n'est-ce pas, aux questions qu'il a posées. Et vous pensez qu'après cette visite, les lignes pourraient bouger en ce qui concerne la riposte contre le Covid-19 en RDC?
Normalement, les lignes devraient bouger. Les lignes auraient pu bouger depuis bien longtemps. Monsieur Guimard, tenez, pour le cas de l'information que vous livrez, l'inauguration d'un bâtiment pour la prise en charge, ainsi de suite, à l'hôpital SMK. Normalement, cette stratégie devait concerner tous les hôpitaux qui prennent en charge les cas de COVID-19, y compris l'hôpital Ngaliema. Je suis étonné de savoir qu'aujourd'hui, à l'hôpital Ngaliema, il n'y a pas un bâtiment. Même un hôpital de campagne avec des matériels qui ne coûtent pas aussi cher que les bétons, les briques, les ciments, ainsi de suite. Donc, un cadre dans lequel on pourrait recevoir et prendre en charge les cas de COVID-19 à l'hôpital Ngaliema, à l'hôpital du Cinquantenaire, à SMK, à HJ et ailleurs. C'est-à-dire un pavillon monté pour la circonstance, équipé avec un personnel aux aguets. Et c'est ce que nous aurions souhaité voir à ce moment et ça fait plus de 2 mois, ou presque 2 mois, que nous sommes déjà en train de faire face à la maladie. Et bien avant ça, nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'on doit préparer des structures d'accueil et de prise en charge des malades. Avant cela, nous disions qu'il fallait agir en amont. En amont, ça veut dire quoi? Veiller à ce que la maladie ne nous attrape pas, ne nous trouve pas, que nous ne puissions pas importer la maladie, comme je le disais en son temps. Et je voulais quand même dire à Dr Michel, il n'est pas correct de dire que la maladie nous prend au dépourvu, que nous n'avons pas été préparés, que c'est maintenant que nous devons mettre les structures en place. Non, ce n'est pas correct pour les cas qui nous concernent et pour les cas qui concernent les pays africains en général, la République démocratique du Congo en particulier. Nous avons eu le temps de suivre par la voie des médias la sensibilisation sur le Covid-19. La Chine a été touchée, nous l'avons appris. L'Europe est venue dans la deuxième vague, disons, entre guillemets, donc comme deuxième continent touché, nous l'avons suivi. Les États-Unis ont été touchés, nous le savons, et l'Afrique n'a pas de raison de dire que nous avons été pris au dépourvu par la maladie et que c'est maintenant que nous sommes en train de préparer les structures,
docteur Vincent,
de former le personnel. Oui, alors, Guimard.
Et donc, vous voulez dire par là que nous avons vu venir la maladie, mais nous n'avons rien fait pour prévenir cette maladie.
Nous l'avons vu venir en face. Et des voix se sont levées, dont la mienne, pour dire, faisons attention, cette maladie nous atteindra. Et vous savez, il y a une rhétorique au gouvernement que je n'approuve pas. Celle de dire, les prophètes des malheurs avaient dit que la maladie allait, ça serait l'hécatombe. Eh bien, peut-être que nous, si c'est bon que ce n'est pas l'hécatombe, c'est bien. Nous sommes patriotes et nous aurions souhaité que la maladie n'arrive pas chez nous, M. Guimaté.
Merci.
Mais nous sommes seulement à notre début et il est possible. Aujourd'hui, nous atteignons les 800 cas. Qui l'aurait cru?
Merci.
Qui l'aurait cru? Et merci. Si demain nous atteignons 1500 et la situation de l'Europe, où serons-nous?
Merci, docteur Vincent Okoyo. Nestor Mandiangou, ministre provincial de la Santé de la province du Congo central. Après Kinshasa, vous ne pensez pas qu'il serait, n'est-ce pas, souhaitable que les chefs de l'État visitent aussi le Congo central, qui devient, n'est-ce pas, la deuxième province la plus touchée après Kinshasa?
Merci beaucoup pour la question. Je pense que l'État, c'est un grand responsable. Il engage toute la nation. Il le sait. Je viens de suivre les uns et les autres parler. Moi aussi, je félicite. Parce que quand il y a une action qui est engagée à ce niveau-là, au sommet de la République, on doit faire le suivi. C'est un problème d'engagement. Ça démontre même le niveau de sensibilité du chef de l'État. La question est présente, les problèmes sont présents dans le pays. Alors il faut que les hauts responsables du pays puissent savoir ce qui se passe de part et d'autre. En fait, c'est dans le cadre de suivi. Parce qu'une action de ce niveau qui se passe à gauche et à droite, si les autorités au sommet de la République ne passent pas, ce n'est pas bon. Et le chef de l'État, sensible qu'il est, il l'a fait. Il l'a fait. Et s'il doit aller à gauche, à droite, dans des provinces, mais il sera le bienvenu. Et il le sait, mais malheureusement, ce n'est pas à nous de déterminer son calendrier. Mais il sait qu'il a des engagements vis-à-vis de sa nation. Donc l'acte posé aujourd'hui est très salutaire et mérite d'être encouragé.
Oui, monsieur le ministre Nestor Mandiangou, la semaine dernière, on était à un seul cas au Congo central. Aujourd'hui, une semaine après, c'est 23 cas qui sont confirmés. Comment vous expliquez cette explosion des cas alors que toutes les mesures étaient censées avoir été prises?
Oui, quand vous dites que toutes les mesures ont été prises, je dirais non, parce que ce n'est pas facile à ce niveau-là de mettre toutes les batteries en marche pour que rien ne passe. Nous avons érigé une barrière au niveau du Au Revoir Congo Central, mais nous avons dit que dans cette action, il y avait un peu de limites. Parce que le chef de l'État avait demandé à ce que le mouvement migratoire soit arrêté. Oui, pour cela. Mais en même temps, il fallait un peu de l'espace à certains véhicules de passer, notamment les poids lourds, parce qu'il faut les fêtes vers Kinshasa, et ainsi de suite. Et il fallait aussi que les commerçants puissent se mouvoir pour amener les produits vers Kinshasa. Vous voyez déjà qu'avec cette fluidité, il y a toujours possibilité, il y a une certaine probabilité à ce que telle ou telle autre personne puisse traverser et arriver en province. On a lutté, on a fait pratiquement un mois de lutte, et voilà qu'aujourd'hui, il y a des cas dans le Congo central. On est parti de quelques cas. En fait, on était arrivé à 6 et aujourd'hui nous sommes à 29 puisqu'il y a 23 qui se sont ajoutés dans les échantillons qui étaient partis. C'est lourd pour nous, c'est difficile, c'est un problème de responsabilité, un problème d'équipement, de matériel. Nous ne disposons pas de tout cela à suffisance, mais au moins nous sommes déterminés à monter des stratégies pour essayer de limiter les dégâts. Nous sommes conscients de ce qui se passe. On n'a pas dit que complètement on aura zéro cas. C'est difficile, c'est trop risqué pour le dire. Mais au moins, on s'est poumonné pour pouvoir chercher à limiter les dégâts. Et voilà que nous sommes là. Mais on ne s'assoit pas. Les stratégies sont en train d'être mises en place pour ne pas arriver à le scandale.
Voilà. Monsieur le ministre, en 7 mois, nous sommes passés ici à Kinshasa, nous sommes passés d'un cas à 863 cas. Et vous voyez comment les choses se passent ici avec les plaintes de la part des personnes touchées par cette maladie. Et est-ce que vous allez tenir compte de ce qui se passe à Kinshasa pour essayer d'améliorer les choses au Congo central? Parce que là, vous dites déjà à 29 cas. Est-ce que la prise en charge elle est bonne?
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la ville de Matadi qui est touchée. Les autres coins de la province sont calmes. Alors, comme c'est Matadi, on se concentre pour voir comment faire. Et en tout cas, certaines dispositions sont déjà prises. Nous avons des centres d'isolement et d'autres sont en préparation. Dans la ville de Matadi, nous voulons en avoir au moins 5. Comme ça, ça va nous sécuriser avec le temps, puisqu'on ne sait jamais, avec tous les contacts que ceux qui sont déclarés ont eu, ça doit faire peur et il faut se préparer en conséquence. Les techniciens ou le monde médical est présent sur le terrain pour prendre en charge ces cas. Et au moment où nous parlons, ceux qui sont déjà isolés sont présents et nous les suivons pour qu'on n'arrive pas au décès. C'est ça que nous sommes en train de craindre.
Merci.
Nous voulons que la prise en charge soit à la hauteur pour qu'il y ait moins de décès et plus de guéris.
Oui, docteur Michel Mouvoudi, vous allez répondre, n'est-ce pas, à docteur Vincent Okoyo qui a réagi à vos propos. Mais avant ça, s'il faut faire l'évaluation de l'évolution de cette maladie près de 2 mois après son apparition, hein, on était le 10 mars, c'était les premiers cas confirmés en RDC, et dans un espace de 7 semaines, on est à 863 cas. Et quand vous-même qui êtes impliqué, n'est-ce pas, dans la riposte, lorsque vous voyez ces chiffres, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que l'évolution de la maladie, elle est bonne, elle est plus ou moins bonne, ou elle est... Et les mauvaises. Docteur Michel Mouvoudi.
Une question rapidement, un petit commentaire sur ce que docteur Vincent, à qui j'ai dit bonsoir, venait de dire, l'honorable Vincent. Donc en fait, 2 points. Lorsque je parle d'une situation brutale, en fait, je fais allusion principalement aux défis logistiques et financiers qui étaient déjà ressentis dans le secteur. Donc une fois qu'il est député national, il sait que justement, s'il y a un secteur qui est très peu financé, en RDC, c'est le secteur de la santé. On savait déjà qu'on allait faire face à ce défi logistique et financier qui continue. Je crois que vous avez suivi son excellence, monsieur le ministre provincial du Congo central. Donc ce défi, il faut vraiment le savoir. Deuxièmement, je crois qu'il faut quand même saluer les premières actions qui étaient prises aussitôt. Hein. Donc c'était justement sur le conseil des techniciens de pouvoir déjà isoler Kinshasa. Et je pense qu'aujourd'hui, si en dehors de Kinshasa, nous n'avons que 6 provinces qui sont affectées sur les 26, c'est justement cette rapidité d'avoir mis Kinshasa en quarantaine, d'avoir arrêté justement les voyages sur les provinces. Donc ça aussi, il faut saluer. Mais on n'occulte pas justement que la situation avait quand même un impact très très fort au sein du secteur de la santé et qu'il y a beaucoup de facteurs aussi qui dépendent de l'extra-sectoriel, des autres secteurs qu'il faut prendre en compte. Donc je voudrais juste renchérir par rapport à ça.
Et s'il faut évaluer l'évolution de la maladie 7 mois après, c'est 7 semaines après
Monsieur Guy, non, notre souci sur le plan de dépistage était principalement axé sur le fait que quand vous avez une maladie comme celle-ci, la meilleure des choses, c'est de dépister les plus. N'oubliez pas que lorsque vous dépistez le plus de malades et que vous les traitez, en fait, vous diminuez le réservoir. Donc, je l'avais mentionné, je pense, ici, sur la radio Capi. Au plus on dépiste, on traite correctement, mieux c'est. Moi, je suis d'accord que là où il faut voir la chose, c'est est-ce qu'on arrive à dépister le plus de malades et on évite surtout de vivre ce qu'on voit généralement, c'est quoi? C'est que vous avez une situation d'accalmie, mais en réalité, avec un niveau de dépistage faible, la maladie continue à babouiller. Surtout, monsieur Guimaté, n'oubliez pas qu'en RDC, nous avons une forme de Covid-19 qui est asymptomatique. Donc, vous avez des gens qui sont très bien portants visiblement, mais qui contaminent. Et donc, ce défi fait en sorte qu'il faut davantage augmenter le dépistage. Je crois que vous l'avez suivi dans les interviews. On est en train, justement, de travailler rapidement sur ça. Et pour moi, si ces cas sont bien traités, donc c'est bien. Alors, deuxième élément, c'est qu'en fait, la maladie a déjà fait une propagation dans la communauté et c'est là justement, je rejoins ce que le docteur Vincent venait de dire, c'est aussi en fait intensifier les mesures de prévention. Je pense que sur ce point-là, on a beaucoup d'efforts à faire. Nous ne devons pas nous voiler la face, on doit vraiment intensifier les mesures préventives, notamment les mesures barrières. Et là, c'est aussi la participation de la population. Sur ce volet, nous avons vraiment des défis à relever et vous savez vous-même que nous continuons à sensibiliser, nous continuons à passer les bons messages, même si jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la maladie n'existe pas. Je l'ai encore suivi, hein, les gens qui vous disent que non, écoutez, c'est une maladie qui ne touche pas les Noirs. Dieu merci, vous avez vu le chef de l'État visiter les hôpitaux. On a vu les malades, finalement, je me disais même que c'était une bonne occasion parce que finalement, les gens disaient, on ne voit pas les malades, on ne voit pas les malades. Aujourd'hui, on a vu les malades. C'est encore une façon de sensibiliser. Et enfin, je termine par la question de la prise en charge. Comme vous l'avez remarqué, je l'ai mentionné plusieurs fois, nous devons nous battre pour qu'on ait une bonne prise en charge. Malheureusement, si vous faites la revue des décès en RDC, vous vous rendez compte principalement que ce soit des gens qui arrivent très tardivement au lieu hospitalier, qui sont déjà en état grave, soit vous avez des maladies qui aggravent l'état de la situation, en fait. C'est notamment certaines maladies comme le diabète, l'hypertension et autres. Et donc, sur ça aussi, Il faut avouer que nous n'avons pas beaucoup investi dans la disponibilité des services de qualité. Et aujourd'hui, les quelques efforts qui sont en train d'être faits, c'est sur ce ton-là. Nous n'avons que 4,1% de taux de létalité. Rappelez-vous, M. Guy, nous étions à 10% de taux de létalité. C'est qu'il y a quand même un effort, mais qui reste encore et on continue. Et si vous regardez comment les équipes travaillent sur le terrain dans des conditions limites des moyens logistiques et financiers, ben en tout cas il faut les encourager. Je pense que on est conscient qu'il faut davantage les appuyer.
Merci. Donc,
visiblement, je crois que la on doit aller sur une approche, un paradigme collectif. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans une phase critique. Il faudra absolument engager tous les fronts. Et je pense que si nous travaillons à la fois sur l'augmentation du dépistage, mais aussi sur la prévention en termes de respect des mesures barrières, pour moi, lorsque je vois ce qui se passe, je me dis, on peut y arriver. Et on va y arriver, ça c'est clair. Et je suis heureux de voir justement qu'en termes, par exemple, de taux de létalité, nous avons justement drastiquement baissé cela. Donc, encore une fois, le chemin reste encore long à parcourir. Il faut redoubler d'efforts, il faut travailler ensemble et que chacun définisse justement sa part dans cette réponse.
Docteur, on vous dit, vous allez réagir à ces commentaires qui viennent de Maniema.
Joseph Mwamba Mukongo, depuis Wamaza au Maniema. Je pense que la situation n'est pas sous contrôle. Il faut chercher de nouvelles méthodes pour essayer de maîtriser la pandémie. Au départ, on comptait des malades par unité par jour. Aujourd'hui, on compte par dizaines. Si rien de différent n'est fait, on passera à des centaines par jour. Et puis, plus le nombre de cas augmente, moins la situation sera maîtrisable. Il faut y aller vite. Et puis, semble-t-il, il y a des provinces où rien n'est encore fait pour dénicher d'éventuels cas positifs. Tenez le cas du Maniema, pourtant en contact permanent avec le Détivou et le Kinshasa. S'il arrive qu'un seul cas s'y trouve, c'est tout le monde qui sera contaminé. On ne devrait pas prendre cette maladie à la légère.
Docteur Michel Mouvoudi.
Excellent feedback. Je pense que notre ami du Maniema a fait un feedback qui est très excellent. Donc, il rejoint une valeur que j'ai toujours mentionnée dans la riposte, c'est la rapidité. Rapidité et rigueur. Donc, lorsque vous attaquez justement ces genres de virus, si vous n'êtes pas rapide et vous n'êtes pas rigoureux, vous n'allez pas y arriver. Donc, son feedback est tout à fait bon. Mais alors, deux points, Guy Maté. Le premier point, c'est qu'il faut que notre ami soit au courant qu'en fait, on a fait toute une évaluation nationale de la préparation des provinces. Vous savez qu'il y a des provinces qui sont en épidémie, dont il y en a 7 qui sont touchées, mais il y a des provinces qui ne sont pas encore touchées, qui sont en préparation. Nous avons, avec les équipes, les partenaires techniques et financiers, travaillé déjà sur les possibilités que nous avons aujourd'hui, tout en travaillant sur la mobilisation de ressources qu'on peut utiliser pour soigner les malades. Par exemple, au Maniema, il y a eu des discussions pour voir l'hôpital de Lumbulumbu, qui a un plateau technique très élevé, comment est-ce que cet hôpital pouvait aider. Au Sud Kivu, la même chose, dans le Kasaï. Donc, en fait, on a fait ce travail de préparation pour montrer pour chaque pilier de la riposte aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans les provinces et qu'est-ce qu'on n'a pas. Je ne peux pas vous cacher que les gaps sont énormes et c'est comme ça qu'on est en train justement de faire un plaidoyer pour le plus de financement.
Merci,
on
docteur.
Est en train de faire un plaidoyer pour avoir le plus de moyens et arriver à doter les équipes de terrain
Merci.
Des ressources pour pouvoir combattre, comme les collègues l'ont dit.
Merci docteur. Docteur Vincent Okoyo, vous allez aussi réagir à ces commentaires qui viennent de Lubumbashi.
Akodi Paouni Désiré depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. À mon avis, cette visite du chef de l'État tombe à point nommé au moment où les Congolais ne croyaient pas à l'existence de cette maladie dans notre pays. C'est aussi une visite de réconfort du chef de l'État à nos concitoyens affectés par cette pandémie de COVID-19. Quant à l'évaluation de l'évolution de la pandémie, je trouve qu'elle est plutôt bonne dans la mesure où nous n'avons plus de cas importés et que les efforts sont maintenant fournis pour le moment pour maîtriser les contaminations locales. Merci.
Oui, docteur Vincent Okoyo.
Moi, je suis très heureux à double titre. D'abord, en suivant le compatriote de Lubumbashi. Vous avez dit de Lubumbashi, hein?
Lubumbashi, oui.
Dans le Haut-Katanga, en le suivant, je suis très heureux de voir que nos compatriotes qui vivent la même situation que nous perçoivent la réalité et voient dans le même sens que nous. Deuxièmement, lorsque je suis docteur Michel, je suis plutôt très heureux aujourd'hui. Parce que la première fois sur Radio Okapi, j'ai en face de moi quelqu'un qui perçoit la réalité dans toute sa dimension. Docteur Michel, merci pour toutes vos analyses. Et moi, comme député national, médecin chef de zone, donc votre confrère médecin, j'oriente mon action et mon plaidoyer vers la mobilisation des ressources financières. depuis le début, je l'ai adressé au gouvernement, j'en parle, pour que le gouvernement mette à la disposition des équipes de riposte les moyens nécessaires. Nous avons appris des compatriotes qui ont suggéré la voie du programme sino-congolais, où on pourrait trouver des centaines de millions de dollars. Et lorsque j'attends encore jusqu'hier, le Premier ministre nous parlait d'un investissement de 3 millions de dollars dans la riposte contre le Covid. Depuis que la situation est en République démocratique du Congo, j'ai dit, bon, notre gouvernement ne perçoit pas la gravité de la situation.
Il y a même, votre collègue Henri Thomas Lokondo qui a, n'est-ce pas, annoncé que KMC, je pense, doit 150 millions de dollars à la Gécamines. Cet argent-là peut être, n'est-ce pas, affecté à la lutte.
À la lutte. Et les programmes sino-congolais étaient disposés, selon mes données, à mettre à la disposition de notre gouvernement plus de 300 millions de dollars. Et c'est avec cet argent-là qu'on peut permettre à l'équipe de riposte de préparer les structures d'accueil et de traitement, d'organiser le dépistage en masse, parce que docteur Michel l'a évoqué. On ne peut pas se frotter les mains à dire que nous n'avons pas assez de cas. Mais le problème peut résider justement dans notre capacité de diagnostic. Est-ce que les tests rapides, le PCR, ainsi que les autres tests sont disponibles chez nous? Et quelle est notre capacité de dépistage par jour pour pouvoir être rassuré que dans notre milieu, le COVID ne circule pas à une vitesse peut-être plus inattendue que celle que nous pensons? Donc je crois qu'en face de moi aujourd'hui, en tout cas pour une fois, j'ai un co-débatteur, docteur Michel, qui voit dans la bonne direction.
Docteur Vincent.
Et mon plaidoyer. Oui, allô.
Oui, sept mois après la déclaration, n'est-ce pas, de cette maladie en RDC, nous sommes aujourd'hui à 863 cas. Comment vous évaluez l'évolution de la maladie?
D'abord, j'étais en train de dire que le problème, ça dépend de notre capacité de diagnostic. 863 cas. Est-ce que ça reflète réellement la propagation du virus dans notre communauté? Parce que nous n'avons pas les moyens de diagnostiquer aussi rapidement que le virus peut se propager. Est-ce que c'est une situation réelle? Mais déjà, sans compter qu'à cela ne tienne, si nous considérons que depuis deux mois, nous sommes à un moment donné, comme l'a dit l'auditeur de Lubumbashi, je crois, on avait une unité, quelques unités de contamination par jour. Nous sommes à quelques dizaines et peut-être une centaine, et nous sommes à 863 cas. Ça montre quand même que si nous augmentons notre capacité de diagnostic, c'est-à-dire de dépistage, nous pouvons découvrir une situation beaucoup plus alarmante que celle que nous avons aujourd'hui. Et ça ne devait pas rassurer et amener les gens à développer cette rhétorique de satisfaction pour se frotter les mains et dire, eh bien, non.
Il est aussi dit, docteur Vincent, il est aussi dit que le type de dépistage est aussi fonction des réalités de chaque pays. Il y en a qui pensent, il y a des scientifiques qui pensent que le dépistage tel que nous le faisons maintenant, même s'il est lent, mais il est beaucoup plus fiable qu'un dépistage rapide. Comment vous réagissez à cela, à ces points de vue-là?
En matière de santé publique, c'est vrai qu'il faut avoir une certitude. Vous évoquez là la notion des faux positifs, des faux négatifs, ainsi de suite. Docteur Michel vous le dira peut-être, je n'aimerais pas m'étendre sur ça. Mais le problème, c'est quoi? Devant une épidémie qui a toutes les allures de pouvoir engendrer une catastrophe, le plus prudent serait de dépister, même s'il y a des faux positifs parmi les cas dépistés, mais il faut connaître l'étendue du problème et essayer de mettre en place des mesures de prise en charge. Donc on ne pourrait pas se réjouir de dire que notre méthode est adaptée parce qu'elle ne diagnostique que les cas véritablement positifs, mais s'il y a des faux positifs ou des faux négatifs, ça peut contribuer à réparer. Le docteur Michel vous a dit, dans notre pays, il s'est fait malheureusement qu'il y a des cas asymptomatiques, mais qui peuvent être des porteurs sains, contribuant ainsi à répandre l'épidémie.
Merci.
Et tout dépend de l'organisme de tel ou tel individu. Un cas asymptomatique peut contaminer un autre et contribuer à créer une flambée de cas graves quelque part.
Merci, docteur.
Donc, je crois que nous devons rester alerte.
Merci. Nestor Mandiangou, vous allez réagir à cette réflexion qui vient des Kalemi.
Ali Mouchaba Joseph Cicéron, étudiant de jeu de droit à l'université de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Nous saluons à juste titre la visite du président de la République rendus aux structures médicales spécialisées de lutte contre la pandémie coronavirus, c'est aussi une façon de montrer à ceux qui doutent encore sur une réelle existence du corona que la pandémie est dans nos mires et que l'État s'évertue ardemment de la prise en charge de ceux qui en sont contaminés. Toutefois, il s'avère indispensable de poser une question teintée de curiosité, cherchant à savoir si les Congolais doivent s'attendre à une éradication complète et rapide de ces fléaux, car le nombre ne fait qu'augmenter. Cette croissance prouve combien sont insuffisantes et inefficaces toutes les mesures, toutes les stratégies mises en œuvre par le gouvernement.
Monsieur Lester Mandiangou.
Oui, je vous en prie. Je viens de suivre l'intervenant. C'est très bon ce qu'il est en train de dire, mais moi je dis que le problème aujourd'hui est au niveau de la population, la communauté qui est touchée. Il est facile, si pas, peut-être je prends les mots dans sa totalité, mais je peux dire qu'on peut arriver à réduire les risques de contamination si nous nous décidons tous, et ça j'en appelle à la grandeur d'âme dans chacun, pour que tout le monde puisse comprendre que la maladie est là. La visite du chef de l'État vient de prouver que réellement, il y a des gens qui sont internés, isolés par ici, par là. Parce que partout ailleurs, on continue à douter. Il y a une classe sociale qui continue à douter que la maladie est présente. On vous dira par exemple ici chez nous dans le Congo central, à Matadi, que le gouverneur est en train de créer des faux positifs pour absorber de l'argent au niveau national. Et par exemple que chaque pas identifié positif représente 10 000 dollars que le gouverneur de province doit recevoir. Voilà là où les choses se compliquent. Donc par ici, par là, les gens vont vous dire que c'est une fausse information, la maladie n'existe pas, on crée. On nous demande même de montrer là où se trouvent les centres d'isolement. Mais on donne les adresses pour dire, allez voir ce qu'on est en train de faire. Donc le problème est au niveau de la communauté.
Voilà, il faut que chacun de nous puisse s'impliquer dans la lutte. Mais aujourd'hui, nous sommes à VNFK au Congo central. Et s'il faut prendre le total de cette province affectée, c'est 863 cas. Comment vous évaluez l'évolution de cette maladie en RDC?
Non, comment l'évaluer? Moi, je prends la communauté comme base. Quand on dit, par exemple, il faut porter les masques, mais si tout le monde accepte, mais on va réduire la contamination. Ça, c'est réel. Mais il y a des gens, quand vous dites cela, les gens banalisent. C'est ça le problème. C'est pour cette raison, par exemple, qu'en province, on vient de prendre une mesure que nous voulons tester. Tout taximène qui est au volant doit avoir son masque. Et toute personne qui veut prendre place à bord doit avoir son masque. Si celui-là ne veut pas, ne vient pas avec son masque, il n'a pas accès au véhicule. Et si le chauffeur le prend et qu'on le surprend par la police, il est arrêté et il doit payer des amendes. Voilà des mesures contraignantes que nous voulons mettre sur pied parce que nous pensons bien que si nous avons tous les masques avec nous, il y a possibilité de réduire la contamination avec ces gouttelettes de salive que nous sommes en train de redouter tous.
Monsieur le ministre,
oui.
Vous êtes au Congo central. Est-ce que vous avez déjà, parce que vous avez toutes les statistiques, est-ce que vous connaissez la commune la plus touchée d'Amatadi?
C'est la commune de Nzanza. Nous sommes en réunion régulière avec les chefs de quartier, les bourgmestres, avec les médecins chefs de zone, pour que tout le monde soit responsable.
Est-ce que vous allez tenter de procéder comme à Kinshasa au confinement de cette commune de Nzanza?
On va y arriver. Je ne dévoile pas tout, mais je vous rassure que d'ici 3 matins, vous aurez des échos. Peut-être que Matadi dans son ensemble, pas même Nzanza, parce que la circulation est intense. Et peut-être on va arriver à confiner Matadi et en même temps à l'isoler. Nous sommes en train de voir comment le faire progressivement, compte tenu de la position stratégique de la province du Congo central par rapport à la ville de province de Kinshasa.
Monsieur le ministre Nestor Mandiangou, vous êtes à Matadi, on connaît l'importance économique, n'est-ce pas, de la ville de Matadi par rapport à toute la RDC. On sait que pour le moment, le monde entier est devant un dilemme. Est-ce qu'il faut tenir compte des impératifs sanitaires ou des impératifs économiques, ou faut-il privilégier l'un au détriment de l'autre, mais aussi il faut savoir que à beaucoup de points de vue, les deux sont liés. Alors, compte tenu de cette importance économique de la ville de Matadi, vous pensez qu'il faut vraiment procéder au confinement de toute la ville ou il faut le faire par rapport à la commune qui est beaucoup plus touchée?
Mais un confinement de deux jours n'est pas exclu parce que il faut passer dans les maisons pour identifier les nouveaux cas. En fait, il y a des gens qui ont développé la maladie, mais qui ont été en contact avec des autres. Mais ces autres-là doivent être suivis, doivent être identifiés pour les prendre en charge. Et mais comment les faire? C'est le travail que nous sommes en train de faire maintenant. Parce qu'il y a eu une augmentation de 23 cas. Mais quels sont les différents contacts que ces 23 cas ont eu? Il faut le chercher. Si on n'arrive pas à prendre des mesures drastiques, c'est impossible de limiter les dégâts. Donc, à un moment donné, d'ici là, Matadi peut être confiné pendant un ou deux jours pour faire ce travail. Et dès qu'on aura fait, on va évaluer la situation et voir après tout qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on doit s'attendre à ces mesures fortes. Sinon, il est difficile à ce qu'on arrête.
Merci.
C'est pour ça que je dis qu'à partir des mesures fortes, à partir d'utilisation des gestes de barrières, je pense que nous pouvons limiter les dégâts.
Merci, merci, monsieur le ministre. Merci, on a compris, on va vous redonner la parole, n'est-ce pas, pour conclure. Docteur Michel Mouvoudi, qu'est faut-il pour améliorer la lutte contre le Covid-19 en RDC lorsque vous voyez tout ce qui a été fait, certainement que vous avez identifié les failles? Qu'est-ce que vous pensez faire pour améliorer cette lutte? Vous semblez être favorable, n'est-ce pas, à un dépistage rapide, mais il y a des scientifiques comme vous qui estiment que cela dépend de chaque pays et que le dépistage tel qu'il est fait aujourd'hui, même s'il est lent, mais il est beaucoup plus fiable que le dépistage rapide. Quel est votre point de vue par rapport à cela?
Oui, monsieur Guy, merci beaucoup. Je suis à m'excuser. Désolé, j'avais fait une fausse manœuvre sur mon téléphone, donc ça m'a déconnecté de l'émission. Donc, en rapport avec le point d'amélioration de la riposte, donc comme on l'a mentionné, chaque jour, justement, les équipes font des évaluations, redéfinissent des stratégies et tout, pour essayer de voir comment, justement, on arrive à être encore plus efficace qu'avant. Donc, je pourrais juste aborder la chose sur trois points. Donc, le premier point pour moi, il faut sensiblement améliorer la communication. C'est très important, vous voyez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur les médias. Ça dénote justement qu'il faut travailler beaucoup sur la communication entre équipes.
La deuxième chose,
La communication horizontale,
la
et mais aussi la communication verticale, ça veut dire entre les provinces et le niveau central. Et je l'ai mentionné encore aujourd'hui lors d'une réunion, c'est qu'en fait, il faut aussi beaucoup travailler sur la communication entre les prestataires et les malades. Donc les gens doivent comprendre, connaître ce qui se passe, quels sont leurs droits, ainsi de suite. Ça, c'est le premier volet pour moi qui reste très important. Le deuxième volet...
Malheureusement, on n'a plus assez de temps, docteur Mouvoudi. Docteur Vincent Okoyo, vous allez aussi conclure.
Je vais conclure en disant que notre gouvernement doit mobiliser suffisamment de moyens. La faute ne doit pas être rejetée à la population parce que notre population est disposée à être encadrée, à suivre les mesures barrières. Mais le gouvernement doit mobiliser suffisamment de moyens.
Merci. Monsieur Nestor Mandiangou, un mot en guise de conclusion.
Oui, nous attendons sur ces moyens parce que la situation est grave. On se bat pour faire quelque chose de bien, mais j'appelle...
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Ngoï qui était à la technique, à Donat Madimba et Kéline Koute qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho. Devant ce micro, Guy Maté, bon studio de programme sur Radio Kaki, mais aussi respecter les mesures barrières.